Bonjour, c'est Patrick Dabas. Venez donc prendre l'air avec les ailes anciennes. Je vous y invite sur Altitude FM, la radio du Grand Toulouse.
Bonjour à tous, amis des petites histoires de la grande aviation. Après son retour en France, dès qu'il a été en état de supporter le long voyage, car il était bien amoché, André Japy se relance dans les études de cartes et de destinations pour accomplir de nouveaux raids et établir de nouveaux temps et records, records à battre bien sûr. Il en fait plusieurs, et notamment en 1937-1938, sur un parcours Istres-Djibouti et retour, et un autre Istres-Wadi Halfa au Soudan. Et il s'intéresse de très près à une idée de raid qui serait de relier l'Europe, du moins la France, à la Nouvelle-Zélande. Mais la proximité de la guerre va tout remettre en question. Japy doit aider son frère à tenir l'entreprise familiale à Rouen après que les établissements Japy Frères aient dû laisser la société Worms entrer dans leur capitale. Après la libération, Japy était resté en contact avec la société des océanistes dont il était membre. Il se voit sollicité pour faire un remplacement en météorologie à Tahiti, enfin à Papeete. On a vu que dans ses années d'étudiant, il avait passé plusieurs examens dans ce domaine en même temps et avait obtenu une licence S-Sciences de météorologie et de mécanique des fluides. Ce travail semble donc tout à fait dans ses cordes et il accepte. Sur place et pendant plusieurs années, puisqu'il y a plusieurs rapports annuels présentés et validés par lui, il se consacrera à la météo. Lorsqu'il va laisser le poste, il a appris à aimer ce paysage qu'il a découvert et cette population accueillante. Il n'envisage pas de rentrer en France, du moins pas aussitôt. Il va alors se convertir à l'agriculture et à l'élevage et tirer parti des surfaces qui lui semblent propices pour cela et dans le but de fournir au pays et aux populations des ressources. Il se mute donc en exploitant des fricheurs de terre envahis de végétation improductive et il se trouve à la tête d'une soixantaine d'hectares sur lesquels il crée des pâturages et un élevage de poules pondeuses avec l'aide de son épouse. Son souci d'efficacité et de qualité lui fait s'intéresser aux races bovines à développer et il fixe son choix sur une race, ce qui l'amène à aller en Nouvelle-Zélande étudier et acheter des bêtes de la race Hereford. Mais aplanir des terrains plus ou moins accidentés pour en faire de vastes prairies, que pensez-vous que cela fait naître dans l'esprit d'un aviateur, si ce n'est, naturellement, des pistes d'atterrissage et des avions? Et les déplacements dans ces îles et ces archipels ne seraient-ils pas plus faciles et rapides dans un avion? L'idée germe et fait son chemin. Un avion? Oui, mais quel type d'avion? Des gens qui connaissent bien les terrains et les conditions le dissuadent d'acheter un petit avion léger et fragile comme il les a connus en Europe. Il faut du rustique, du solide, notamment au niveau des trains d'atterrissage, de préférence à aile haute pour une plus facile navigation à vue, même s'il se rappelle que son Simoun, avec ses ailes basses, lui avait probablement sauvé la vie. Il arrête son choix sur un avion américain, un Piper Super Cub, dérivé du L4 Grasshopper, qui s'est illustré en Europe pendant le conflit et souvent présenté comme la Jeep du ciel. Parfois, il est même surnommé par certains la sauterelle. C'est un biplace en tandem, c'est-à-dire que le pilote et le passager sont assis l'un derrière l'autre dans un habitacle étroit. Le plus souvent, le pilote adopte la place arrière car, lorsqu'il est seul, l'avion est mieux équilibré en matière de centrage de gravité. Il va alors peaufiner son installation près de son exploitation à Vaïro. Il va construire une piste pratique et assez longue, 500 mètres de long sur 30 mètres de large, même si son avion à lui se contente de pistes sommaires et courtes. Mais déjà, il pense à d'autres avions et des avions d'autres pilotes et il aura toujours en tête de pouvoir y faire poser des Piper Aztec, modèle courant là-bas dans les liaisons régionales. Il achète des parcelles à côté des siennes, fait des échanges de parcelles avec des voisins. Pour voler dans ces îles, il n'oublie pas que des cartes peuvent être utiles. Il se fait dessiner par des habitués de la navigation sur la mer, entre les îles, se faire dessiner des cartes donc, et avec son avion, il part en reconnaissance pour valider les noms, relever les distances et les durées de vol. En même temps, comme tout pilote prévoyant, il repère systématiquement et à chaque vol les espaces où ils pourraient se poser en cas d'urgence dans les moins mauvaises conditions et, si possible, sans se blesser, au cas où l'atterrissage n'aurait pas la douceur voulue. Cette habitude de pilote dévie sur une reconnaissance systématique des terrains où l'implantation d'une vraie piste pourrait se faire. En effet, les communications entre les îles prennent du temps, certaines îles sont parfois difficiles à accoster même pour les bateaux. Pour les approvisionnements et les secours rapides, il peut y avoir là une solution intéressante. Il se rend compte, pour en parler avec les habitants isolés, qu'il peut compter sur leur aide et le matériel dont ils peuvent disposer pour travailler afin d'aider à la préparation et à la construction de pistes. Cela va devenir une activité plus habituelle de transport et il se rend compte qu'il faut envisager un appareil mieux adapté à un usage plus intensif et surtout doté d'une autonomie plus importante. Il se rend aux États-Unis pour voir de plus près le modèle Cherokee 4 de chez Piper, l'évaluer et l'essayer. Convaincu, il l'adopte. À Tahiti, il est immatriculé FOCAB, c'est-à-dire Alpha Bravo. C'est un quadriplace de 180 chevaux entièrement métallique. Il est équipé d'un système de pilotage que l'on peut qualifié d'automatique, mais rien à voir avec ce qui se fait aujourd'hui. Un simple système de maintien de cap, mais qui permet cependant de se détendre un peu ou d'étudier de façon approfondie une carte, faire un calcul sans risquer une dérive qui, même légère et surtout au-dessus de l'eau, peut se révéler catastrophique en quelques minutes. Il va lui faire subir quelques aménagements, notamment dans l'optique du rayon d'action, en mettant en place une installation pouvant accueillir des réservoirs supplémentaires. Il a toujours autant de plaisir à piloter, bien sûr. Il vole pour ses besoins personnels, mais se met facilement à la disposition des pouvoirs publics pour des acheminements, des transports. Il a pu aider à la recherche de bateaux en mer signalés égarés ou perdus, ou en difficulté à plusieurs reprises. Je ferai une petite parenthèse en ne pouvant m'empêcher de penser à Jacques Brel, le chanteur-compositeur-interprète bien connu, qui était aussi un pilote pas maladroit du tout et qualifié. Quelques années après Japy, il avait vécu aux mêmes endroits. Oui, je sais, le secteur est vaste. Il avait vécu une vie de déplacement et de service aux commandes de son avion, le fameux Jojo B-O-D-B-U, un Beechcraft Twin Bonander. J'ai eu l'occasion dans une de mes chroniques d'en parler il y a quelques années. Peut-être devrais-je la ressortir ou la refaire. Les idées de raid ou du moins de liaison intéressantes ne l'abandonnent pas non plus. On l'a vu parfois à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, ou à Norfolk, dans l'île nord de Nouvelle-Zélande. Et sa grande idée était de relier Faa, l'aérodrome de Tahiti, à l'île de Pâques. Il y a renoncé. C'était au-dessus des possibilités de son avion et bientôt alors des lignes commerciales de grandes compagnies vont s'en charger. Ce développement des lignes commerciales des normes et des réglementations, ce qu'il n'a jamais bien apprécié, le décourageront et lui enlèveront son plaisir d'évoluer librement dans ces conditions. Et à la fin 1960, et à la fin des années 1960, sans doute en 1970, il va liquider ses affaires en Océanie, céder son avion à l'aéroclub de Faa et rentrer en France. Le 12 août 1974, lors d'une promenade sur la place de Ploumaugère, dans le Finistère, une crise cardiaque l'emportera. Il avait 70 ans. Il est enterré au cimetière de Poissy.
À la semaine prochaine donc pour d'autres avions et d'autres hommes.